La dégustation de l'omelette géante de Dumbéa débute bientôt au Parc Fayard. 7500 œufs ont été cassés pour l'occasion. Nous serons en direct en début de ce journal. Nous reviendrons sur les rendez-vous politiques des partis indépendantistes qui se sont déroulés hier. Le FLNKS et l'UPM ont évoqué la poursuite des discussions sur l'avenir institutionnel avec Manuel Valls. Le monde entier en communion autour de la dépouille du pape François. En marge de cette cérémonie, on retiendra des échanges diplomatiques entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Nous célébrons aujourd'hui la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, une année marquée par le 80e anniversaire de la libération des camps. Le sport avec du football et la suite ce matin de la 31e journée de Ligue 1. Et sur le territoire, la première manche du championnat calédonien de karting se déroule sur la piste de Nakutakwin à Dumbéa. Bonjour à tous, c'est donc le jour J. À l'occasion de la 41e fête de Dumbéa ce week-end, c'est le retour de l'incontournable omelette géante. Hier, près de 7000 visiteurs étaient déjà présents et ils sont encore nombreux aujourd'hui. On retrouve Léo Fichou au Parc Fayard. Bonjour Léo.
Bonjour Léana.
Alors Léo, ça y est, l'omelette est-elle servie et est-ce que vous avez eu votre part ?
Alors non, l'omelette n'est pas encore servie, ils sont en train de poser l'huile, de mettre l'huile sur la poêle pour lancer la cuisson, mais je ne vous cache pas Léana que j'ai déjà hâte de goûter cette fameuse omelette. Les bénévoles de la confrérie de l'omelette géante qui préparent cet événement depuis plusieurs semaines déjà, et ils s'activent encore plus aujourd'hui depuis ce matin, et encore là à quelques minutes de servir les milliers de parts aux visiteurs, des visiteurs déjà très nombreux autour de la poêle. Ceux avec qui j'ai pu discuter ont aussi, hein, comme moi, forcément hâte de déguster cette omelette qui contient, je le rappelle, pas moins de 7500 œufs, 25 kg de saucisses de terre, 5 kg d'oignons verts et 20 litres d'huile. Les élus autour du maire, Yann Le Courrier, ont rejoint les chevaliers de la confrérie il y a quelques minutes pour tirer le foyer sous la poêle. L'huile est en train de frémir, de cuire, et puis ce sera place aux œufs qui ont déjà été percassés, mis dans des bols, et puis qui seront jetés, mis dans la poêle par l'ensemble des élus et des chevaliers. Alors, je rappelle aussi, hein, que quelques chanceux trouveront un œuf sculpté en pierre dans leur barquette qui nous donne le cadeau, un voyage à Paris ou un autre à Lipou, notamment. Léo Fichou, depuis le Parc Fayard, RB.
Et merci Léo, et je compte bien entendu sur vous pour nous ramener une part. Je rappelle que la fête de Dumbéa continue jusqu'à 17h30 au Parc Fayard.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dumbéa, c'est le 98.
Actualité politique, et le FLNKS va poursuivre les discussions avec le ministre des Outre-mer, mais il attend de voir la proposition que le ministre mettra sur la table avant de décider de la suite qu'il donnera à ses rencontres. C'est ce que l'on retient de la convention qui était réunie hier à Yaté. Elle a été ouverte par la lecture par Laurie Oumouni d'une lettre de Christian Théin. Depuis sa cellule de Mulhouse, le président du FLNKS estime, et je cite, que le projet d'accord version Valls ne correspond pas à nos propositions, mais que c'est plutôt un énième statut au sein de la République, prolongeant ainsi la colonisation pour plusieurs années. S'agissant du contenu, l'accord de Nouméa demeure la base des négociations futures, écrit Christian Théin, et il fixe toujours comme objectif la signature d'un accord de Kanaky au plus tard le 24 septembre 2025, un accord qui devra préciser la date effective d'accession à l'indépendance avant la fin du mandat présidentiel en 2027. La convention du FLNKS a décidé de reprendre les discussions à l'arrivée de Manuel Valls, mais dès le 1er mai, le FLNKS réunira de nouveau ses instances pour examiner le projet que le ministre des Outre-mer aura posé sur la table. C'est ce qu'expliquait hier soir Romuald Pidgeot, le secrétaire général adjoint de l'UC, à l'issue de la convention.
Déjà, il s'agissait de faire un point par rapport à notre dernière rencontre. C'est-à-dire que entre notre dernier BPE et la convention d'aujourd'hui, on a eu plusieurs séquences de visio avec l'État. On a eu des bilatérales et des plénières, donc il s'agissait de faire un rendu de ces rencontres avec une évaluation. Et donc voir quelle suite a donné par rapport à l'arrivée du ministre le 30 avril. Il y a eu de la discussion comme à chaque convention, pas dire que ça a été houleux. Donc on a pris acte de l'arrivée du ministre le 30 avril. Suite aux rendus qui ont été faits par l'équipe de discussion, la convention a décidé d'aller rencontrer le ministre parce que le ministre devrait nous proposer quelque chose à son retour. Ce qui a été décidé aussi, c'est qu'on se revoit le 1er mai, donc le lendemain, et à partir partir de ce que nous aura rendu le ministre, on verra quelle suite on donne dans la séquence avec le ministre de l'Outre-mer.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. Et au stade actuel, le FLNKS parle toujours de discussion, mais pas encore de négociation. Dans son courrier, Christian Théin estime par ailleurs impératif de privilégier le format bilatéral avec la puissance administrante et la supervision de l'ONU. De son côté, l'UPM organisait hier à la tribu de Unjoavo son comité central. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. La quarantaine de membres réunis a ainsi évoqué la situation politique sur le territoire, mais aussi en métropole avec le gouvernement Bayrou. Un tour complet des dossiers qui occupent l'actualité calédonienne comme le nickel, Enercal, la transition alimentaire ou encore la CAFAT a été réalisé. Et pour avancer dans la bonne direction sur ces sujets comme sur l'avenir institutionnel, il n'y a pas de secret, explique le président de l'Union progressiste en Mélanésie, Victor Tuchugoro. Il faut trouver un compromis politique.
La situation, elle est grave parce qu'on ne touche pas encore le fond. Et que pour stopper, il faut au plus vite possible trouver un compromis politique. C'est ce que nous disons, nous, en tout cas à UPM, dans la droite ligne, ce que dit l'Union nationale pour l'indépendance. Il faut tout mettre en œuvre aujourd'hui pour qu'il y ait un compromis politique, pour que derrière, l'économie elle puisse se relancer. Parce que tant qu'il n'y a pas d'accord politique, la situation continuera à se dégrader et à se compliquer davantage. D'une manière générale, on encourage le FLNKS, le FLNKS nouveau, à participer, à rester autour de la table et à continuer à, ensemble à mener les discussions pour qu'on arrive à un compromis politique entre les différentes forces politiques. Évidemment, le gouvernement de Lucie Valls a aussi une grande responsabilité pour que les uns et les autres puissent continuer à rester autour de la table. Parce que les choses ne sont pas faciles. Et essayer, avec les uns et avec les autres, d'essayer de trouver un compromis qui nous permette de sortir la tête haute.
Notez que le prochain comité de l'UPM sera organisé au mois de juillet à Wailou. C'est le professeur de droit Éric Deschmaker qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Cet universitaire qui enseigne à Melbourne s'intéresse de près à la Nouvelle-Calédonie et il ne cache pas son souhait qu'elle reste française, Jean-François Baudin.
La semaine dernière, Éric Deschmaker avait donné à Nouméa une conférence sur le thème de la situation ainsi créée, qui a suscité un certain nombre de commentaires et de réactions parce qu'il développe une analyse originale, voire provocatrice, sur la Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi très sévère envers l'accord de Nouméa, qu'il accuse d'avoir créé un proto-État qui va vers l'indépendance. Ce sont les trois non au référendum qui ont interrompu ce processus et il estime qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire demi-tour.
Oui, on peut faire demi-tour. Rien n'est jamais définitif, même pas la fumeuse irréversibilité constitutionnellement garantie, douze syllabes dont aime à se gargariser M. Chauchat. C'est-à-dire ce que le constituant a fait, le constituant peut toujours le défaire. Nous ne sommes pas liés par ce qu'une autre génération a décidé. En revanche, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut faire demi-tour. C'est-à-dire vous avez une sorte de gros navire qui va dans une direction qui est la sortie du territoire. Vous pouvez arrêter les moteurs, il va continuer à dériver. Et donc, il continue à dériver vers la sortie. Donc, si vous voulez l'empêcher, ben, il n'y a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Alors, ce n'est pas facile. Ça ne veut pas nécessairement dire tout défaire, évidemment, mais ça veut dire changer de logiciel et de logique. Ne plus accepter cette logique de l'accord de Nouméa, qui est encore une fois de créer progressivement un État qui, en se développant, deviendra indépendant et naturellement partira.
Et alors que le ministre des Outre-mer est attendu d'ici quelques jours sur le territoire, Éric Deschmaker a été interrogé sur le projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. Pour lui, le document de l'État, c'est l'accord de Nouméa en pire.
Sa logique est très claire et c'est exactement la même logique que celle du FLNKS. C'est-à-dire, tout ce qui, depuis 35 ans, a été concédé au camp de l'indépendance, on va dire, reste acquis par principe, c'est ce que certains appelleraient le socle de l'accord de Nouméa, et ben le reste, c'est-à-dire ce qui est encore français, alors ça, on va en discuter. Et donc, on va couper la poire en deux, puisque l'île est coupée en deux moitiés. C'est-à-dire, dans la logique de M. Valls, on ne peut pas aller tout de suite à l'indépendance parce que les trois non, mais c'est à peu près la seule chose que ça empêche dans son logiciel.
Le professeur de droit conteste la poursuite de la trajectoire envisagée par le document de l'État avec de nouveaux transferts de compétences et le maintien du mécano institutionnel. Il répète par ailleurs sa conviction que, contrairement à ce que tout le monde affirme, il n'y a pas de droit inaliénable à l'autodétermination.
Il n'y a pas de droit unilatéral à la sécession de la République, d'aucune partie de la République, et encore moins du nébuleux peuple de Nouvelle-Calédonie ou peuple calédonien qui est une construction purement administrative. C'est un ramassis administratif de gens qui peuvent cocher une des cases leur permettant de s'inscrire sur une liste électorale. Je suis en un sens heureux que le gouvernement insiste parce qu'il va perdre cette bataille. Et là, on va voir, je crois, à la fois la médiocrité intellectuelle, mais aussi surtout le degré d'idéologie des gens qui sont aux manettes et qui d'ailleurs, enfin, c'est une génération qui était déjà là dans le cabinet de Louis Le Pincec. C'est-à-dire, ça nous ramène quand même assez longtemps en arrière.
Éric Deschmaker se méfie des termes comme loi fondamentale et compétence de la compétence, qui selon lui risquent de faire l'objet d'interprétations. Et il lui a été demandé si, selon lui, un accord est possible lors de la venue de Manuel Valls.
Possible, donc je n'ai pas d'informations particulières, mais si vous regardez le texte et sa logique, on peut amender un texte, mais on ne peut pas, avec des amendements, changer sa structure fondamentale, sa direction, sa logique. Quand je lis cela, je me dis que c'est un texte qui ne peut pas être accepté à la fois par les vrais indépendantistes et par les vrais partisans de la France. Donc ce qu'il reste, ben, c'est ceux qui ne croient à rien. Mais je veux dire, une photo, enfin, une poignée de main entre juste M. Valls et M. Gomes, ce serait un petit peu chétif sur la photo. De toute façon, la logique de l'accord, c'est que tous le signent. Donc je vois assez mal comment ça pourrait être le cas.
Difficile qu'un accord soit possible, mais selon lui, un accord est-il souhaitable ?
Le sentiment que j'ai vraiment à écouter les gens et à leur parler, c'est qu'on a affaire à un transfert, au sens psychologique du terme. C'est-à-dire qu'on investit l'accord ou l'espoir d'un accord de vertus quasiment magiques. C'est-à-dire l'accord devient synonyme de retour à la paix, à la prospérité, une forme de stabilité, la fin de ces souffrances. Mais aucun accord juridique sur le nombre de points de citoyenneté pour devenir calédonien ou sur le taux d'imposition, l'assiette fiscale à Koné ou au Mont d'Or ne va ramener la paix civile. Ça, c'est quelque chose qui se joue dans les cœurs et dans les esprits. Et je ne crois même pas que ça ramènera nécessairement une visibilité. C'est un argument que j'entends beaucoup. Oui, Eric, je vois bien que ça n'est pas très appétissant, mais au moins, on saura pour X années où on va. Mais ça, ça suppose que les gens tiennent leur parole. Et ça suppose que M. Bichou, dont la libération fera sans doute partie du package global, se sente tenu par la parole, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre.
Une interview d'Éric Deschmaker qui sera rediffusée ce soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Midi 13, on marque une première pause avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie et dans le monde.
Venez découvrir la suite de la programmation du Théâtre de Lille, La Dernière Allumette, Lumière des Misérables, un spectacle magique, onirique et poétique. La rencontre improbable de la jeune fille aux allumettes et de Gavroche dans le tumulte de la Révolution. Ne ratez pas ce spectacle à voir seul, en couple ou en famille, samedi 26 et dimanche 27 avril à 18h. Réservation sur ticket.nc.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Léana Colombo.
Et le pape François repose désormais dans sa dernière demeure. Il a été inhumé hier soir à 19h pour nous lors d'une cérémonie privée dans la basilique Sainte-Marie-Majeure en plein cœur de Rome. Plus de 400 000 fidèles ont salué le cortège funèbre. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 au Vatican, Antoine Bienveau.
Aux abords de la basilique Sainte-Marie-Majeure, ils sont des milliers à regarder émus le cercueil du pape François atteindre sa dernière destination. Ben, venu de Londres, ne parvient pas à retenir ses larmes.
Quand il est passé, c'était très émouvant. J'ai eu beaucoup de souvenirs de lui qui me sont remontés. C'était un homme de foi qui essayait de rendre le monde meilleur. Et il nous manque beaucoup.
Accoudée aux barrières de sécurité, Claire regarde elle aussi passer doucement le cortège funèbre, touchée par la simplicité des funérailles voulues par François.
Ma première pensée, ça a été, c'est un homme comme tout le monde. Parce que comme il l'avait voulu, le cercueil était extrêmement simple. Dans la petite papa mobile, c'est toute la foi de Francesco, une foi simple.
Quelques minutes plus tard, le rosaire est prononcé sur les marches de la basilique sous les yeux d'Alondra, drapeau de l'Argentine sur le dos, ému comme elle le dit elle-même par la mort de son pape François.
C'est une fierté qu'il soit argentin. Je suis triste, bien sûr, mais aussi très fière de voir tous ces gens du monde entier qui viennent lui rendre hommage. Donc je suis heureuse de voir l'impact que notre pape François a eu.
Un pape apprécié de tous qui, ce samedi, devant des milliers de fidèles, a terminé son dernier voyage.
130 délégations étrangères étaient présentes pour les funérailles du souverain pontife. Il y avait aussi une dizaine de monarques et une cinquantaine de chefs d'État, dont Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Les présidents américains et ukrainiens ont discuté au sein de la basilique Saint-Pierre et ont eu un dialogue très productif. Wilfried De Villers pour Europe 1.
Oui, et Volodymyr Zelensky évoque pour sa part une bonne réunion qui pourrait même, selon lui, devenir historique si nous obtenons, dit-il, des résultats communs. C'est bien l'une des images de la journée, les deux présidents assis l'un en face de l'autre dans des fauteuils rouges sous une coupole de la basilique Saint-Pierre avant d'être rejoints par Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Keir Starmer. Une rencontre improvisée, assure le porte-parole de la présidence ukrainienne, est tout un symbole au moment où Washington accentue la pression sur Kiev pour parvenir à un accord de paix le plus rapidement possible. Il n'a jamais été aussi proche, assure même Donald Trump. Si les tractations diplomatiques reprennent, reste que Vladimir Poutine refuse toujours toute idée de négociation directe avec son homologue ukrainien. Et sur le front, c'est bien la Russie qui a l'initiative, elle qui annonce avoir entièrement repris aujourd'hui le contrôle de la région de Koursk. Vladimir Poutine s'est tout de même dit prêt hier à négocier sans condition préalable avec l'Ukraine, même si dans les faits, la Crimée et annexée par la Russie en 2014 reste l'une des lignes rouges, un point de blocage dans les discussions de paix. Et Donald Trump dit douter ce soir des intentions du président russe. Il est possible qu'il ne veuille vraiment pas arrêter la guerre, écrit-il sur son réseau Truth Social, évoquant un possible renforcement des sanctions américaines visant Moscou.
Et parmi les sanctions américaines, Donald Trump envisage de frapper le système bancaire russe. Les funérailles du pape François étaient également très suivies en Nouvelle Calédonie, un moment de recueillement s'est déroulé hier soir en l'église de l'Espérance. Les fidèles des paroisses Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Louis étaient réunis pour la veillée de la Divine Miséricorde. Un mot d'actualité en métropole, il assume son plan B pour 2027. Dans une interview au Parisien, Jordan Bardella se positionne comme candidat du Rassemblement National à la présidentielle. Si Marine Le Pen devait être empêchée de se présenter, je travaille et je me prépare, ajoute le président du Rassemblement National, tout en assurant que Marine Le Pen, dont le procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires doit avoir lieu en 2026, reste sa candidate. Retour sur le territoire avec une cérémonie pour se souvenir. Aujourd'hui est célébrée la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. En Nouvelle-Calédonie, c'est à la Croix de Lorraine à Nouméa qu'un dépôt de gerbes a eu lieu en présence des autorités civiles et militaires. Philippe Messman, président de l'Association culturelle israélite de Nouvelle-Calédonie, était présent pour ce devoir de mémoire.
Chaque année, depuis la fin de la guerre mondiale, il est important de commémorer ce devoir de mémoire. C'est ce qui est indiqué dans le discours des associations de rescapés de la déportation. Il est important de marquer, c'est aussi pour ça que je suis venu aujourd'hui avec ma petite fille pour justement ce devoir de mémoire et lui faire comprendre ce qui s'est passé il y a 80 ans aujourd'hui pour que ça ne se renouvelle pas.
Lors de cette cérémonie, un message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants a également été lu. Une disparition inquiétante de mineurs signalée à Païta. La gendarmerie de Nouvelle-Calédonie lance un appel pour retrouver Paul qui n'est pas rentré à son domicile. De type mélanésien, 1m80 de corpulence normale, barbu et âgé de 15 ans, mais en paré plus. Paul est vêtu d'un short noir et d'un tricot noir ou bleu nuit. Il est pieds nus. Si vous avez des informations, contactez la gendarmerie de Païta ou le 17. Et un accident de plongée hier à Dumbéa. La brigade nautique soviétique est intervenu au spot de surf à la passe de Dumbéa. Le plongeur a dû être évacué en urgence vers Nouville où il a été pris en charge par une ambulance avant d'être transporté au CHT. La gendarmerie souligne qu'en l'espace de 2 semaines, il compte déjà 2 accidents potentiellement graves et plusieurs incidents en chasse sous-marine et en apnée. La vigilance est donc de mise. Midi passé de 20 minutes, seconde pause avant de passer au sport.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Jusqu'au vendredi 2 mai, gagnez un lit complet offert par Moerani. En jeu, un ensemble complet pour vous assurer la douceur de vos nuits. Un sommier avec matelas en 2 mètres par 160 avec ses 2 oreillers, un drap housse plus un drap plat et les têtes d'oreiller. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Moerani, c'est le spécialiste de la literie orthopédique en Nouvelle-Calédonie. Le choix, la qualité, au meilleur prix toute l'année. Toutes les actus sur la page Facebook Literie Moerani, Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à passer nous voir au 13 rue Forest à Ducos. Téléphone 28 69 42. Moerani, la garantie pour des nuits réussies. Un cadeau d'une valeur de 130 000 francs. Tirage au sort vendredi 2 mai à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Tout le sport en 3 lettres. RRB.
Excellent début d'après-midi, la suite de votre journal avec le sport, on retrouve Léana Colombo.
Et direction la métropole avec du football et la 31e journée de Ligue 1. Strasbourg s'est imposé face à Saint-Étienne 3-1. Le Havre a fait match nul contre Monaco 1-1. Enfin, dernier match de la matinée, Lyon a écrasé Rennes 4-1. Je rappelle qu'hier, le PSG s'est incliné pour la première fois de la saison, défaite 3-1 face à Nice. La nuit prochaine, 5 matchs seront au programme. Angers-Lille, Lens, Auxerre, Montpellier-Reims, Nantes-Toulouse et Marseille-Brest. En Espagne, Barcelone gagne la Coupe du Roi face au Real Madrid après prolongation. Score final 3-2. Le FC Barcelone poursuit sa moisson grâce à la frappe gagnante du Français Jules Koundé avant les tirs au but. Le Barça remporte donc son 3e Classico cette saison. On passe au rugby avec la 22e journée de Top 14. Clermont a battu Lyon 39-31. L'Aviron bayonnais a dominé la section paloise 27-22. Montpellier est venu à bout de l'USAP 19-13. Le promu Vannes renoue avec le succès. Victoire 29-19 sur Toulon. Et puis le Stade Rochelet s'est imposé 21-10 sur la pelouse de l'Union Bordeaux-Bègle. En ouverture hier de cette 22e journée de Top 14, le Stade toulousain, solide leader, a écrasé le Castres Olympique 52-6. Demain matin en clôture, un derby francilien entre le Racing 92 et le Stade français. Du rugby aussi cette nuit, les féminines de l'équipe de France ont échoué à 2 petits points d'un exploit historique à Twickenham. Dans cette finale du tournoi des 6 nations face à l'Angleterre, les Bleus se sont inclinés 43-42 et laissent donc échapper le titre. Les Anglaises ont fait parler leur expérience et remportent donc le Grand Chelem. Les sports mécaniques maintenant avec le 5e Grand Prix de moto de la saison. Les pilotes sont en Andalousie dans le sud de l'Espagne et Marc Marquez s'est imposé cette nuit sur la course sprint devant son frère Alex Marquez et son coéquipier Pecco Bagnaia. Les Français Johan Zarco et Fabio Quartararo ont chuté. El Diablo était pourtant parti devant tout le monde puisqu'il avait décroché la pole position mais n'a tenu qu'un tour en tête.
Malheureusement le seul, mais je savais très bien que voilà, je voulais être un petit peu leader. Ça faisait quelques années que j'étais pas devant. Donc dès le premier virage, j'ai voulu attaquer, mais on sait très bien que quand on a pas mal d'essence, qu'on doit faire plus de tours. Malheureusement, on était vraiment à la limite. Et j'ai essayé, j'ai poussé, mais malheureusement, voilà, c'est pas passé. Demain, on prendra un petit peu le départ avec un peu plus de calme.
Le Grand Prix d'Espagne est prévu pour ce soir 23h. C'est donc Fabio Quartararo qui partira en pole position devant Marc Marquez et Pecco Bagnaia. Johan Zarco partira de la 10e position. On suit également ce week-end la 4e manche du championnat du monde des rallyes. Les pilotes sont eux aussi en Espagne, mais aux îles Canaries. Après 12 spéciales, le Finlandais est calé. Rovan Perä est toujours en tête devant le Français Sébastien Ogier, le Britannique Elfyn Evans. Et puis du cyclisme, la suite des grands classiques de la saison. après Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. Les coureurs prendront le départ dans la nuit de la 111e édition de Liège-Bastogne-Liège. Au menu pour les coureurs, 252 km jalonnés de 11 ascensions et près de 4400 mètres de dénivelé positif. Une course qui s'annonce décisive dans le final. Les favoris sont une nouvelle fois Tadej Pogacar et Remco Evenepoel.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont-d'Or, c'est le 100.4.
Un mot de basket avant de passer au sport sur le territoire. Deux jeunes Calédoniens étaient à Paris ces derniers jours pour participer à la finale nationale du Challenge Benjamin, organisée par la Fédération française de basket. En individuel, chez les filles, Janaël termine 21e sur 31, et chez les garçons, Gian termine lui 17e sur 31. Et le meilleur pour la fin, Gian a décroché l'or avec son équipe de basket 3 contre 3. Passons maintenant au sport sur le territoire avec des forces formation dispensée par le comité régional de cyclisme de Nouvelle-Calédonie pour devenir bénévole fédéral BMX. 9 bénévoles participent à cette première formation sous la houlette de Florent Bout, entraîneur de l'équipe de France de BMX actuellement sur le territoire. Depuis hier, ils sont formés à la pratique sur la piste de BMX inaugurée il y a peu sur les boucles de Tina. Et parmi les futurs bénévoles de la fédération, le cycliste calédonien Florian Barquette.
C'est assez différent du cycliste traditionnel, donc route piste, un petit peu aussi du VTT. Oui, c'est vraiment nouveau parce qu'on n'avait pas d'équipement comme ça sur le territoire, donc on est quasiment tous novices sur cette discipline, donc une grande partie d'abord théorique, et là, tout le week-end, 8h-16h, on est en formation intense de pratique pour pouvoir être prêt très rapidement à accueillir les pratiquants. Personnellement, moi, je suis vraiment pas bon techniquement et j'y arrive. Non, je pense que c'est comme tout, hein. Faut y aller progressivement, faut pas se mettre directement à 5 mètres, on se met à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, puis après... On voit que ça passe. Justement, c'est pour ça aussi qu'il y a cette formation, pour pouvoir apprendre que le meilleur de France nous apprenne comment accueillir les jeunes de la meilleure manière possible et surtout toujours avec le mot d'ordre qui est de la sécurité.
Les bénévoles fédéraux BMX pourront ainsi donner des cours gratuitement aux jeunes Calédoniens souhaitant s'initier à la pratique de ce sport. Partons en mer avec deux challenges organisés par le CNC hier. Le matin, le Cercle Nautique Calédonien proposait un challenge dériveur. Léo Gillard s'est imposé en RS Feva devant Victor Trinquet et Timothée Teltebaum. L'après-midi, c'était une régate de J70 avec 8 équipages. À l'arrivée, c'est l'équipage 20 cm qui s'impose devant Keep Cool et Rasta Rocket. Et direction Dumbéa pour finir ses pages sport avec la première manche du championnat calédonien de karting sur la piste de Nakutakouin. 20 pilotes sont au départ dans 3 catégories différentes. Les minimes cadets qui ont entre 7 et 10 ans, la catégorie nationale de 10 à 13 ans et la catégorie DD2 où les pilotes ont entre 15 et 74 ans. Après les warm-up, les essais et les qualifs, les finales devraient bientôt avoir lieu. Voilà qui met un terme à ce journal. Je vous donne rendez-vous à 13h pour le rappel des titres et je vous dis à tout à l'heure.